Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 21 juillet dernier, les Belges changeaient de souverain. Après 20 ans de règne, Albert II passait le relais à son fils, le nouveau roi Philippe. De l'histoire immédiate qui a retenu l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est la première fois qu'un roi des Belges abdique, si l'on accepte évidemment les conditions si particulières du départ de Léopold III. Ça m'a donné l'idée et l'envie de revenir sur l'histoire de la Belgique en général et plus particulièrement sur celle de ses rois.
Et pour en parler, vous avez invité le journaliste Bertrand de Kers.
Et oui, Bertrand de Kers, que connaissent bien nos auditeurs, il est belge lui-même, vous allez l'entendre dès les premiers mots. Du reste, il connaît cette famille royale comme personne. Je salue au passage tous nos auditeurs, ils sont très nombreux qui nous écoutent en Belgique.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Voyez comme ils sont beaux, radieux, éclatants de santé. Ce jeune couple en tenue montagnarde parti pour son dernier jour de vacances à l'assaut d'un sommet alpestre, ce sont, tenez-vous bien, le roi et la reine des Belges. Léopold III et Astrid ont passé quelques jours dans les Dolomites avant de venir se reposer en Suisse près de Lucerne. Regardez là cette belle, cette sublime Astrid, celle que toutes les rédactions d'Europe ont longtemps surnommée la princesse du Nord. Elle est scandinave, suédoise exactement, cette idole des foules était la princesse du Nord avant de devenir dans les journaux la reine de cœur. Elle est montée sur le trône belge aux côtés de son mari à la faveur du décès de son beau-père, le roi chevalier Albert Ier, lui-même adepte de l'alpinisme, est mort accidentellement au cours d'une escalade au milieu des rochers de Marche-les-Dames, près de Namur. Même en vacances, les servitudes du métier de roi ne sont jamais loin. La semaine précédente, le jeune roi Léopold, vous avez compris qu'il ne règne donc que depuis 18 mois, a dû faire l'aller-retour à Laeken, près de Bruxelles, pour y recevoir le président de la République française, Albert Lebrun. Mais depuis 3 jours, ce sont les vacances totales. Même les enfants, Joséphine Charlotte, la future grande duchesse de Luxembourg, Baudouin, bien entendu, et Albert, tous deux futurs rois des Belges, même les enfants sont rentrés à Bruxelles où ils attendent leurs parents. Autant dire que les vacanciers vont enfin pouvoir prendre un petit peu de temps pour eux, comme on dit. Ils sont presque des estivants comme les autres, chaussés de solides bottines de montagne. Tenez, ils viennent de sortir de leur villa de Orf. Le roi est en train de s'installer au volant de sa voiture de sport, une superbe, comment est-ce qu'on pourrait dire, un roadster américain, qu'il met un point d'honneur à conduire lui-même. Le chauffeur en sera quitte pour monter en postillon dans le Spider. Le Spider, vous savez, c'est cette sorte de malle arrière dotée d'un petit siège d'appoint pour les passagers de fortune. Le moteur, surpuissant, vrombit déjà. Et la jeune reine dans tout ça? Oh, la jeune Astrid prend son temps. Elle profite du bon air et du soleil ardent, un petit peu frais tout de même. Il a plu toute une partie de la nuit. Elle a donc revêtu un tailleur de laine assez douillet. Elle sourit, quel sourire et quel regard bleu intense. Pas étonnant qu'elle traîne souvent dans son sillage toute une meute de photographes qui sont comme aimantés, comme magnétisés par les yeux les plus célèbres d'Europe. Ceux de Michel Morgan ne sont pas encore connus à cette époque. On est donc, je vous rappelle, en août 1935. Léopold fait ronfler le moteur. Pour tout vous dire, il s'impatiente un peu quand même. Astrid monte à côté de lui dans l'auto, décapotée. Elle décoche à son époux impatient un regard plein de malice et de tendresse. Ils ont beau être mariés depuis 10 ans, ils s'aiment toujours autant. Le coupé sport démarre et le voilà déjà qui serpente sur la petite route de montagne. Des sapins, des lacs, un paysage pur. Astrid pourrait se croire dans sa Suède natale. À la demande de Léopold, elle a sorti une carte routière de la boîte à gants. Le roi, disons-le, est un peu perdu. Il a l'habitude d'avoir des chauffeurs, évidemment. Il attend une indication rapide. Seulement, voilà, lire une carte, ce n'est pas vraiment le fort de cette jeune reine. Alors elle hésite, elle fronce les sourcils. Léopold soupire, sans ralentir pour autant. Il tourne les yeux vers la carte. Un instant seulement, une seconde ou deux d'inattention. Mais oui, mais c'est déjà trop. Le moteur est puissant, je vous l'ai dit. Il y avait là un virage que le roi n'a pas vu à temps. Le roadster heurte le parapet. On était au bord du ravin. La voiture échappe au contrôle du pilote. Elle devient folle, elle dérape, elle fait un tête-à-queue, glisse sur le talus et heurte violemment un arbre avant d'aller buter contre un autre à 15 mètres. Et puis elle capote et vient finir comme ça dans les roseaux près du lac. Les occupants de la décapotable ont été éjectés, on l'imagine. Le premier à reprendre ses esprits, c'est le chauffeur qui se trouvait à l'arrière dans le Spider. Il accourt vers le roi et la reine qui sont étendus tous deux, sans connaissance, dans un verger. C'est vraiment une vision de cauchemar pour cet homme dont on imagine l'émotion, la stupeur horrifiée lorsqu'il tombe sur ces deux corps inanimés, ensanglantés. Quel contraste avec le paysage toujours aussi serein. Les petits oiseaux continuent à chanter dans le paysage ensoleillé. Deux voitures se sont arrêtées au bord de la route, puis une troisième. Bientôt, on s'attroupe, on échange des renseignements. Le bourg le plus proche est Küsnacht, où l'un des témoins est déjà parti quérir un médecin. Quand celui-ci arrive, écartant les badauds, il trouve le roi Léopold qui a repris connaissance agenouillé près de sa jeune épouse qu'il tient dans ses bras, l'étreignant, la suppliant de se réveiller. Mais la reine Astrid ne bouge plus. Le médecin l'examine, il secoue la tête. Elle est morte. Chose incroyable, la plus vivante, la plus éclatante des têtes couronnées qu'on ait vues depuis longtemps est là, sans vie, dans ce verger de montagne où la stupeur est en train de faire place à la désolation. Le roi qui, en définitive, n'a été blessé qu'assez légèrement, accompagne la dépouille de sa femme adorée, de sa reine, de son Astrid du Nord que personne, et surtout pas lui, ne peut encore imaginer défunte. Sans faire de grandes phrases, je vous le dis tout simplement, pour la Belgique, et pour la Suisse, et pour l'Europe royale, et disons-le pour l'Europe tout court, pour le monde entier, l'annonce de cette mort brutale, de cette vie radieuse fauchée de cette façon-là, a fait l'effet d'un coup en plein cœur. Je cite le grand reporter Albéric Cahuet, qui rappelle la cérémonie d'obsèques du roi Albert Ier que la présence consolante d'Astrid avait littéralement illuminée. La jeune reine, écrit-il, la jeune mère inclinait son clair visage sous les voiles et dirigeait le geste d'amour de ses enfants vers tous les enfants qu'on lui tendait. Elle passait dans le carrosse des jours d'histoire, précédée de son roi à cheval, et l'on courait derrière la double haie de garde pour tenter de la voir encore si fine, si grave, si tendre. Si belle, ah, comme tous ceux qui ont à cet instant connu la magie de ce printemps royal, ont reçu en plein cœur la nouvelle de l'aveugle tragédie des choses où s'éteint une lumière radieuse. Le cercueil scellé de la reine Astrid, Astridke, comme l'appellent affectueusement les Bruxellois, notre petite Astrid, est arrivé par le train à 6h du matin dans la capitale. On l'a chargé dans un corbillard qui l'a conduit jusqu'au palais royal à travers une ville en pleurs terriblement silencieuse dont tous les réverbères ont été voilés de crêpes noires. Au palais, dans la salle du penseur, le cercueil est recouvert, il apparaît. On a ouvert le cercueil, si vous voulez, et la foule va pouvoir défiler devant ce corps déjà embaumé que revêt une robe de soie blanche semée de bouquets de violettes, avec un crucifix d'argent sur la poitrine. On peut dire que les traits de la princesse du Nord sont inchangés, peut-être même sont-ils plus purs encore. Avant que n'entre la foule anonyme qui, 3 jours durant, va défiler devant cette dépouille, le jeune roi est là, qui veille sa femme et vacille sous le double poids de sa peine, évidemment, et de la culpabilité qui le ronge.
Un extrait de Pavane pour une infante défunte.
Europe 1, 14h-15h.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, sur Twitter également, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. La suite de votre récit, Franck, sur la mort de la reine Astrid.
Alors, qui est-elle, Céline, cette reine Astrid? Qui était-elle qui vient d'être donc si terriblement accidentée? Elle avait vu le jour 30 ans plus tôt, à Stockholm, exactement le 17 novembre 1905, sous le nom d'Astrid Sophie Kire. Elle est la seconde fille du prince Charles de Suède, qui lui-même est un des frères du roi Gustave V, et Ingeborg, de Danemark, la sœur du roi Christian. Autant dire qu'elle n'est pas bien placée du tout dans la succession au trône. Elle n'a aucune chance de régner jamais sur son pays natal. Et elle passe une enfance tout à fait paisible sur une île située au sud de Stockholm, à Fridhem, dans la propriété familiale plantée de bouleaux. Il faut imaginer ces bouleaux argentés, ces sapins noirs. On est dans le nord de l'Europe, avec bien sûr partout les taches lumineuses de lacs magnifiques. Beaucoup d'affection dans cette famille. Les parents élèvent eux-mêmes les enfants, et d'une façon assez moderne. Astrid vit, disons-le, une adolescence heureuse. On est en pleine Première Guerre mondiale, mais la Suède est neutre pendant cette période et c'est assez lointain pour elle. Tout ça, en fait, pour tout vous dire, comme beaucoup de jeunes filles et comme beaucoup de jeunes princesses, elle rêve d'amour, elle rêve du prince charmant. En 1923, ses parents ont été ruinés par le krach d'une banque danoise, mais ça n'empêche pas de continuer à rêver. C'est une jeune fille moderne, disons. Elle fait du ski, elle est même championne de natation. Et puis un jour qu'elle se trouve chez sa sœur Margrethe, qui est devenue princesse de Danemark, qu'elle est donc à Copenhague, on est en plein hiver 1926, elle est invitée à aller danser au château royal d'Amalienborg. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de son prince charmant, disons-le. Il est assez timide, ce prince, mais il est jeune, il est beau, il est blond. C'est l'héritier du trône de Belgique, le prince Léopold, duc de Brabant. Quand il voyage comme ça, il utilise un nom d'emprunt, c'est plus facile. C'est comme ça que font les têtes couronnées à l'époque, hein. Il est le comte de Réti, comme ça permet de descendre assez incognito dans les hôtels. Il danse une valse avec elle. Est-ce qu'on peut dire qu'il tombe aussitôt amoureux? Oui, je crois qu'il y a eu quelque chose comme un coup de foudre. Elle a 20 ans, lui en a 24. Une chose est certaine, on n'a pas fini de le voir en Suède. Il passe beaucoup de temps au château de Fridhem. Il loge tout près, dans la plus modeste des auberges, pour être le plus discret possible. Il ne faut pas oublier que la presse est là. Certainement moins pressante qu'elle ne l'est devenue, mais en tout cas, les photographes, les journalistes s'interrogent, évidemment. En juin, il se revoit toujours de cette année 26, il se revoit chez la grande-duchesse de Luxembourg. En juillet, c'est elle qui est invitée dans les Ardennes au château de Siernion, donc où elle va enfin rencontrer son futur beau-père. Et le roi des Belges annonce donc leur fiançailles le 20 septembre 1926. Disons-le, ils n'ont en commun ni la religion ni la langue. Léopold est catholique tandis qu'Astrid est luthérienne. Elle ne parle ni le français ni le flamand, et pour se parler entre eux, ils parlent en anglais, tout simplement. Ils s'en moquent, ils sont amoureux, ils sont en train de vivre un vrai conte de fées, et les journalistes ne s'y trompent pas, ils ont d'emblée fait de ce petit couple leur chouchou.
Du concerto pour piano de Ravel, votre récit, Franck.
Il y a quelque chose de sombre dans ce concerto, parce que pour tout vous dire, sur ce bonheur qui a l'air tellement radieux et qui ne durera finalement pas si longtemps, l'accident a eu lieu, je vous l'ai dit, en 1935, sur ce bonheur planent certaines ombres. Alors le mariage civil a eu lieu à Stockholm, les souverains des Belges, de Suède, de Danemark, de Norvège, etc. assistent à ce mariage dans la grande salle des états généraux. Vous imaginez le carrosse d'or entouré de valets qui emmènent le duc et la duchesse de Brabant chez leur beau-frère. Le 8 novembre 1926, c'est l'arrivée du couple à Anvers. La foule est considérable, massée le long du débarcadère pour les voir descendre. Ils s'embrassent longuement sur la passerelle. C'est un geste spontané qui... On est dans les années 20, c'est pas du tout habituel. Ça déchaîne une véritable ovation de l'assistance. Astrid d'emblée va savoir toucher le cœur du peuple belge qui apprécie l'image de cette princesse amoureuse. Je vous passe les grandes réceptions à l'hôtel de ville. Et puis le 10 novembre 1926, la bénédiction nuptiale à Saint-Michel et Gudule. La foule se presse, on n'avait pas vu de cérémonie aussi fastueuse depuis le mariage de Léopold II avec l'archiduchesse Marie-Henriette. Et trois enfants vont naître de leur union. Charlotte Joséphine donc, qui naît dès 1927, elle sera l'épouse du grand-duc Jean de Luxembourg. Beaucoup plus tard, Baudouin, le futur roi Baudouin, bien sûr, qui naît en 1930, le futur époux de la reine Fabiola. Et puis Albert, le futur roi Albert II, qui lui naît en 1934 et qui donc est le père de l'actuel roi Philippe. Léopold et Astrid vivent à Laeken, vous savez, dans cette très très belle résidence avec ses jardins et ses serres magnifiques. Elle veut élever ses enfants en s'impliquant autant que sa mère s'est impliquée dans sa propre éducation, si vous voulez. Ce qu'il faut dire, c'est que très vite, évidemment, les choses vont changer puisque le 17 février 1934, le roi des Belges, donc Albert Ier, décède dans cet accident d'escalade dont je vous parlais au début de l'émission. Il était passionné d'alpinisme, Albert Ier. Le 23 février, les députés, les sénateurs désignent son fils aîné comme leur nouveau souverain sous le nom de Léopold III. On a presque envie de dire pour le jeune couple, c'en est fini de la belle vie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la mort de la reine Astrid.
Et oui, et cet accident donc intervient en 1935, très peu de temps, on va dire à peine 18 mois après la mort du précédent roi Albert Ier. Elle était adorée, cette reine Astrid. Il faut bien comprendre qu'elle était véritablement la reine du cœur, comme l'avait surnommé la presse. Elle voulait faire le bien. Elle était toujours radieuse, souriante. Voilà ce qu'écrit le comte Sforza. Chaque geste chez elle, chaque sourire avait l'air de dire « Je suis heureuse, que puis-je faire, mon Dieu, pour que tout le monde soit heureux et pour faire disparaître le plus de souffrance possible ?» On n'en finirait pas, j'en ai moi une bonne dizaine, là je vais même pas avoir le temps d'entrer dans tous les détails, mais de citer toutes les anecdotes qui prouvent sa générosité. On sait qu'un jour elle avait reçu, par exemple, par le courrier, une lettre d'une dame expliquant que la vie était dure. C'est souvent comme ça, quand on a les lettres au souverain, on se confie de ses malheurs, bien entendu. Et cette dame dit « Ah, mon mari, que vous pouvez vous figurer, car il ressemble beaucoup au vôtre, etc. C'est le même genre, lui dit-elle. Mon mari n'a même plus de quoi se mettre. » Et on dit que le soir, quand le roi est rentré, une partie de sa garde-robe avait disparu et avait pris l'adresse de cette pauvre dame. Et etc. On pourrait citer comme ça un grand nombre d'anecdotes qui montrent à quel point cette souveraine était proche du peuple. Et c'est vous dire l'émotion qui donc a accueilli la nouvelle de l'accident. D'abord en Belgique, mais un peu partout. Disons-le, quand on a ça tombe, j'allais dire, sur les téléscripteurs. Il n'y a pas encore vraiment de téléscripteurs à l'époque, mais quand on apprend par dépêche que la reine est décédée, donc à Küsnacht, à 9h45, ce 29 août 1935, sans qu'on puisse du reste en savoir beaucoup sur les circonstances exactes de l'accident. Le seul qui pourrait peut-être fournir des informations en la matière, c'est le roi lui-même. Or, il n'a pas pu être questionné. Vous imaginez bien que la police suisse s'est abstenue d'aller faire une enquête auprès d'un souverain régnant qui se trouve sur son territoire. Vous imaginez d'ailleurs les complications considérables pour les autorités consulaires suisses. Ça a été une histoire terrible. Les Suisses ne sont pas tellement habitués d'ailleurs à gérer les affaires de protocole royal, de trains spéciaux, de gerbes à qui envoyer et comment, etc. Le corps a été mis en bière sur place et puis il sera donc ramené à la villa Alice Horn où il est embaumé et c'est ensuite seulement qu'il sera mis dans le train à destination de Bruxelles, le train spécial évidemment, et qui ramène ramène avec la dépouille mortelle le roi, sa suite, tout le personnel, etc., tous les gens qui sont là. Alors, on est dans les années 30, évidemment. À l'époque, les photographies de presse sont en train de se répandre. Hein. C'est grâce à de nouvelles techniques d'impression, on met de plus en plus de photos dans les journaux et surtout dans les magazines. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la célèbre série de 6 clichés, principalement des photos de la voiture complètement démolie et qui émerge du lac, mais également des photos du corps de la reine au moment où il est déposé dans un cercueil. Photos prises par Willy Rogg, un étudiant en médecine de 25 ans qui habitait sur place. Et évidemment, la publication des photos en question va faire un véritable scandale. Après la prise des clichés, il a fait développer les photos avant de les proposer à un journaliste de l'agence suisse Photopress. Seulement, Rogge va les vendre à Associated Press au prix de 100 francs suisses la photo, ce qui à l'époque est considérable. Associated Press paie également à Rogge une course en taxi vers Zurich pour récupérer les photos qui avaient été achetées par un concurrent. Donc, Rogge reçoit un appel du ministre belge des Affaires étrangères, qui s'appelle Paul-Henri Spaak, qui le prie au nom de la famille royale de ne pas communiquer les photos à la presse. Seulement, il est trop tard, les photos sont à Londres. Mais, explique-t-il, les photos ont été prises à une certaine distance, elles ne peuvent pas faire l'objet de scandales. En vérité, les journaux du monde entier annoncent à ce moment-là la mort de la jeune reine en première page et presque tous les articles seront accompagnés des célèbres photos de Willy Rogge. On peut dire que c'est finalement, d'une certaine manière, le tout début de ce qu'on appellera plus tard la presse à scandale. Bonjour Bertrand Decaers.
Bonjour Franck.
On peut dire qu'aujourd'hui encore, cette affaire a... est ressenti douloureusement par les Belges.
La Belgique à l'époque est en état de choc et pas seulement, le roi également lui-même est très très affecté. Alors il boite, il a les côtes fêlées, il marche très très difficilement, mais étant en état de choc, il demande au palais que volontairement les barrières nadar qui sont censées retenir la foule qui est considérable soient mises un peu plus loin que d'habitude, de façon à ne pas entrer trop en contact avec la foule. Il y aurait d'ailleurs une rumeur qui va naître très très vite et on dira, regardez, on est placé aussi loin parce que notre roi lui aussi est mort. Ce n'est pas le roi Léopold III qui est là, ce n'est en somme qu'un personnage fictif.
Alors on va revenir sur les 7 règnes de l'histoire belge. Léopold Ier, Léopold II, Albert Ier, Léopold III dont on parlait, et puis Baudouin, Albert II et Philippe.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire des rois des Belges, avec vous Franck Ferrand et votre invité Bertrand Decaers, journaliste spécialiste des monarchies et du Gotha.
Alors donc Bertrand, il faut que vous nous expliquiez pourquoi on ne dit pas roi de Belgique mais roi des Belges pour commencer. C'est quand même une particularité ça.
Effectivement, c'est une précision. Les rois sont rois des Belges et non rois de Belgique car ils l'est en quelque sorte, ils sont rois par la volonté des Belges.
Et ça c'est directement inspiré de ce qui se passait en France au moment de la naissance de l'État belge, hein. C'est-à-dire que Louis-Philippe n'était pas roi de France, il était roi des Français. C'était une façon à l'époque de marquer la dimension constitutionnelle d'une monarchie qui, dans une Europe où toutes les monarchies, ou presque, étaient des monarchies absolues. Là, on n'est plus dans une monarchie absolue. Et Louis-Philippe a joué un rôle non négligeable, évidemment, dans la naissance de cette monarchie belge.
Bien sûr, oui, oui. Et Louis-Philippe, d'ailleurs, qui restera très, très attaché à cette naissance de la monarchie, puisque le premier roi Léopold Ier va épouser sa fille, la princesse Louise, que l'on appellera nous la reine Louise-Marie.
Mmh. Donc la première reine des Belges est la fille du roi des Français, en fait, on peut dire ça. Alors qui est-il ce Léopold Ier? C'est un personnage, rien ne le prédisposait vraiment à devenir le roi des Belges, quand
non,
même, disons-le.
Non, absolument pas. Léopold Ier a 41 ans lorsqu'il accepte ce trône de Belgique qui lui est confié. Il faut savoir qu'il a déjà refusé le trône de Grèce que l'on lui proposait. Il est 8e enfant, Léopold Ier, d'une famille que l'on pourrait dire pourvoyeuse de trône.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est de cette époque, hein, ce 19e siècle, où on cherche un certain nombre de souverains pour de nouveaux états, et alors il y a des familles qui sont, en quelque sorte, qui fournissent des rois,
ouais,
presque. Comme un vivier, en fait.
Voilà, absolument, absolument. Et alors, il a déjà brillamment réussi à se placer, Léopold, puisqu'il a épousé, il faut le savoir, la princesse Charlotte, qui est à l'époque l'héritière du trône d'Angleterre. C'est un mariage d'État, certes, mais c'est aussi un mariage d'amour. Léopold était très amoureux de la belle Charlotte. Malheureusement, les choses ne vont pas s'éterniser. Le bonheur ne va pas durer, puisque dans la nuit du 5 au 6 novembre 1817, après un très long accouchement, la princesse Charlotte meurt en mettant au monde un bébé mort-né. Alors le projet de la vie de Léopold est détruit, en quelque sorte.
Lui, il se voyait bien en Angleterre.
Là, c'est cela. Il se voyait régner sur la plus grande puissance au monde. via la princesse Charlotte. Malheureusement, ça ne se fait pas. Il est également, comment dire, très, très endolori par cette disparition. Ce n'est pas seulement le fait de ne jamais régner. Mais néanmoins, Léopold reste un homme habile, un stratège. C'est quelqu'un que l'on dit froid, flegmatique. Il est rompu aux astuces et aux intrigues du pouvoir. En somme, il a la carrure d'un chef d'État.
Oui, c'est ça. C'est un véritable, il a un véritable caractère et ça va jouer un rôle important parce que lorsqu'on crée comme ça cet État, il faut peut-être dire en deux mots que la Belgique est née
sur un air d'opéra.
Oui, c'est ça. Et oui, quel opéra d'ailleurs?
Oui, la Muette de Portici. Effectivement, nous sommes, Franck, le 25 août 1830 sous les brillants lustres du Théâtre de la Monnaie au cœur de Bruxelles, cet écrin fabuleux, lorsque résonne la Muette de Portici. Le peuple belge, à ce moment-là qui est sous le potentat hollandais, se rebelle et gagne son indépendance.
Et donc, à partir de là, il faut, puisqu'il y a un nouvel État, il faut un nouveau roi, et c'est comme ça donc.
Bien sûr, le 4 octobre, l'indépendance de la Belgique est proclamée, et le 22 novembre, on décide que ce sera une monarchie. Encore faut-il trouver un roi, ça ne se trouve pas, ça ne court pas.
Alors bon, en l'occurrence, il sera Saxe-Cobourg-Gotha, les grandes puissances européennes se mettent d'accord, le roi des Français n'est pas très content, il faut bien le dire, mais il va s'en sortir en donnant sa fille au roi des Belges. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai eu l'occasion de raconter ça il y a longtemps à ce micro, le départ de Louise des Tuileries a été une chose terrible, hein, de la famille royale. Oh, que tant de sang, de sanglots.
Elle part, pardon, un lundi franc, et désormais elle détestera
tous les lundis du monde. C'est ça, c'était une famille très unie, les Orléans, il faut dire. Alors, ils vont quand même régner sereinement, et pendant longtemps, c'est un long règne, celui de Léopold Ier. Il ne meurt qu'en 1865. Hein,
oui, c'est bien sûr. Il arrive en Belgique par la ville d'Ostende. Vous savez qu'il longe la mer le 17 juillet 1831. Il gagne, il remonte la Belgique qui est en liesse. Il gagne peu à peu Bruxelles et il est...
Parce qu'il est un symbole d'indépendance, il ne faut pas l'oublier. Hein.
Léopold.
Hein.
Et il est donc intronisé le 21 juillet 1831, qui restera au fil des ans, au fil des siècles, qu'il est encore aujourd'hui la date de la fête nationale en Belgique.
Alors donc, il meurt à l'époque de ce qui est en France le Second Empire, en 1865. Il y a déjà quand même autour de cette famille royale toute constitutionnelle et récente qu'elle puisse être, il y a tout un décorum, bien entendu, et ce décorum va se donner libre cours au moment des obsèques du souverain.
Le défi réellement de Léopold Ier, c'était d'assurer l'unité et de sauvegarder l'existence du royaume. Quel plus beau symbole, en quelque sorte, que d'organiser de somptueuses obsèques.
Oui, voilà, hein.
Léopold organise lui-même ses funérailles. Il commande un carrossier, un char mortuaire où sont représentés les écussons des 9 provinces. Malheureusement, il a vu un peu trop grand, Léopold. Et à la dernière minute, on s'aperçoit que la voiture funèbre ne passera pas à certains endroits du cortège. Qu'à cela ne tienne, en Belgique, on sait réagir, on est pragmatique.
Si c'est vous
on
n'a
pas de vénérables tilleuls qui sont réellement centenaires. On commence à démonter les premières lignes téléphoniques sont sur le parcours.
Ah quand même, on va jusque-là. Alors, le successeur de Léopold Ier, assez logiquement, c'est Léopold II. Et ça, c'est, j'allais dire, le grand souverain de l'histoire belge. Peut-être pas le plus grand, mais en tout cas, c'est celui qui a laissé la plus importante empreinte. D'abord, il va régner très longtemps, jusqu'en 1909. Il est le roi de la Belle Époque, il est le roi du Congo. Quelle figure, hein, ce Léopold II.
Et quel personnage étrange, dirons-nous. Vous savez, Léopold, lorsqu'il met son immense nez dehors, cadeau des Orléans, il prend un soin méticuleux de sa barbe soyeuse et parfumée, dont on dit d'ailleurs qu'il protège quand il pleut, en la glissant dans un étui qui est en somme une poche de tissu imperméable qui est retenue par un cordon qu'il passe lui-même autour de sa tête. Vous imaginez l'accoutrement.
C'est-à-dire qu'en fait, il a une sorte de sac dans lequel il passe sa barbe.
Pour ne pas que sa barbe prenne l'eau. Mais alors, il est encore beaucoup plus étrange que cela, Léopold, puisque c'est un personnage très complexe. Il ne se douche qu'à l'eau salée. Et par exemple, il exige que l'on repasse les journaux parce que le bruit du papier porte sur ses nerfs. Voilà. La Belgique est effectivement un drôle de personnage à la tête.
Et en même temps, quand même pas n'importe qui.
Alors, c'est un génie, Léopold.
Il va donner aux Belges le Congo. Ça, c'est une chose
tout à fait. Tout d'abord, il mise des millions de francs sur Ostende, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il dit, la Belgique a très peu de plages, profitons-en au maximum. Il finance à coups de millions la restauration d'Ostende. Il va également à la Côte d'Azur sur Saint-Jean-Cap-Ferrat et achète tout, littéralement tout franc, ce qui est en vente à un franc du mètre carré. Ce qui veut donc dire qu'à l'heure actuelle, on sait très bien que la famille royale de Belgique possède encore certains de ces terrains. Vous imaginez la plus-value. Donc.
Oui, c'est phénoménal. Alors, on ne va pas venir ici sur tout le chapitre un peu douloureux, même carrément très douloureux, de la colonisation du Congo, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit très glorieux, tout ça.
C'est vrai que son terrain de jeu, très vite, ne lui suffit plus. Il veut voir flotter le drapeau belge dans les 5 parties du monde.
Oui, voilà.
Et il va coloniser, effectivement, l'Afrique noire, qui est une terre qui fait 81 fois
Mais
le
alors,
territoire.
Il y a une chose que vous allez peut-être pouvoir éclairer ma lanterne, parce que je me suis souvent posé cette question. Le Congo lui appartenait en propre. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'appartient pas à la Belgique, ça appartenait au roi. Ça, c'est quand même une subtilité.
Oui. L'histoire est certes un peu douloureuse. On en a gardé des souvenirs un peu douloureux, c'est vrai, mais elle est drôle, en quelque sorte, puisqu'il acquiert sur ses fonds personnels le territoire qu'est l'Afrique du Sud. Il faut quand même savoir que là-bas, il y a des gisements de cuivre, de l'huile de palme, du coton, du tabac, des diamants. Il a vraiment préparé la chose. Malheureusement, il faut de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'hésite absolument pas à décrocher les toiles de maître du palais royal pour les vendre, de façon à financer cette acquisition personnelle.
Cette acquisition personnelle.
Qu'il lèguera à la Belgique, cependant. Il faut quand même dire les choses.
Donc, en 1909, à la mort de Léopold, l'essentiel du Congo, pas tout d'ailleurs, mais l'essentiel va devenir propriété souveraine de la Belgique.
Bien sûr, puisque par testament, le 9 août 1880, il offre par testament le territoire à la Belgique.
Vous avez vu qu'on comprend finalement que les règnes de cette histoire des Belges sont extrêmement longs, puisque donc Léopold II meurt en 1909, son successeur ce sera Albert Ier, c'est le Albert Ier dont je parlais tout à l'heure, qui est mort à Marche-les-Dames en 1934, tout simplement. Nous y venons bien entendu en votre compagnie, Bertrand de Kers, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'était un extrait de La Muette de Portici. Nous sommes au cœur de l'histoire des rois des Belges cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Bertrand de Kers, journaliste spécialiste des monarchies et du Gotha.
Nous en étions dans la courte liste de ces 7 souverains à Albert Ier, qui a laissé évidemment un souvenir très fort en Belgique parce qu'il est le souverain qui a affronté l'invasion allemande et la Grande Guerre, bien entendu, Bertrand.
Oui, le 4 août 1914, l'armée allemande effectivement envahit la Belgique. La Belgique est un petit pays inoffensif et totalement neutre. Le royaume voudrait d'ailleurs rester neutre et ne pas s'engager dans le conflit. Il offre dans les premiers temps une résistance qui est assez inattendue, alors que l'on ne lui prédit absolument pas du tout, et ce grâce à un coup de génie que l'on doit à Albert, puisque grâce à un éclusier, Albert va déporter les Allemands vers la mer du Nord, la ville de Stende dont je vous parlais.
Mais détourner, disons, pour éviter les mots dangereux.
Tout à l'heure, effectivement, et alors il va retenir l'avancée de l'ennemi en décidant d'inonder à grande eau le territoire.
Ah oui.
700 000 mètres cubes d'eau envahissent 25 km carrés de terre, autrement dit les Allemands, les pieds dans l'eau, sont obligés de faire demi-tour.
Mais alors, ça va être un événement mythique et fondateur, en quelque sorte. On sait que les monarchies se constituent et se renforcent d'un certain nombre d'épisodes fameux. Et là, en l'occurrence, on peut dire qu'Albert Ier devient un symbole.
Bien sûr,
à ce moment-là.
Sont les circonstances qui font naître un héros franc. Automatiquement, de nombreux peintres accourent en Belgique pour immortaliser Léopold face à la mer. Son visage se retrouve
Albert,
sur des boîtes à biscuits, des cartes postales, des porcelaines. Et Élisabeth également, le mythe d'Élisabeth, son épouse, qui, elle, reste aux côtés de son époux, que l'on nomme la reine infirmière.
Ben, on dit le mythe, mais c'est quand même la réalité. C'est-à-dire que c'est entré dans la légende.
Même si, effectivement, certains journaux diront que Élisabeth aurait passé moins de temps au chevet des malades que ce que l'on dit réellement, et qu'Albert aurait été moins de temps dans les tranchées. Mais bon.
Ah bon, bon, en tout cas, le symbole est là, il est fort, et à la mort du roi à la suite de cet accident d'alpinisme en 1934, on peut dire qu'il y a une forte émotion déjà. Seulement, ce roi a un fils, donc, Léopold III. oui. Et qui lui va devenir le vraiment le roi des contes de fées grâce à sa femme.
Mais oui, bien sûr.
C'est Marielle, si vous permettez, Bertrand, qui nous dit que c'est par un message Twitter qu'à Paris la statue de la reine Astrid est située devant le tunnel de l'Alma où a été blessée à mort la princesse Diana, à laquelle d'ailleurs on consacrera très bientôt une émission. Effectivement, hein, cette place de la reine Astrid se situe tout près d'Europe 1, disons-le, hein, tout près d'Alma Marceau. Et comme par hasard, la statue qui représente le monument de la reconnaissance de la Belgique à la France par de Ruyter a été inaugurée en 1923, donc au grand moment de la liesse du mariage.
Hein. Qui unit effectivement Léopold et Astrid. Oui.
Alors ce Léopold III, voilà la figure controversée. Nous arrivons aux questions qui fâchent, est-ce qu'on peut dire ça? C'est un règne un peu particulier.
Oui, Léopold III accède au pouvoir, au trône, qu'il a 33 ans. Léopold III, vous savez, normalement le couronnement pour un prince héritier, c'est un rêve d'enfant pour le fils d'un roi. Mais il n'a pas lieu pour Léopold dans les conditions rêvées, puisque Albert est mort trop tôt et que Léopold n'est pas prêt pour assurer aussi brutalement la succession d'un roi aussi vénéré. Il ne s'entend pas trop avec les partis communistes, il n'a pas confiance en ses conseillers, il se méfie de la presse. Donc effectivement, les choses s'annoncent déjà un peu douloureuses, et elles vont l'être, puisqu'il est à peine au pouvoir depuis une dizaine de mois, un peu plus, qu'il le tragique accident survient à Cusnac.
Il s'en veut personnellement de l'accident qui a quitté la vie à sa femme. Il était au volant, après tout.
Oui, et pendant 2 ans, il ne fait plus aucune apparition publique. Il se renferme, en quelque sorte. Oui. Il croit, Léopold, pour être honnête, que sa vie est finie, mais en réalité, pas du tout, puisque le 10 mai 40, l'Allemagne attaque à nouveau la Belgique, et la Belgique entre à nouveau en guerre, seulement je vous l'ai dit.
L'infortune de la Belgique, c'est de se trouver à mi-chemin entre l'Allemagne et la France, hein, dans cette affaire.
Mais Léopold n'a pas la carrure de son père, le roi Albert. Donc malheureusement, il ne va pas réussir à glorifier son royaume. Et 8 jours seulement après avoir été envahi, la Belgique doit capituler. Des officiers se suicident par dizaines, par centaines. Léopold a trahi le serment de préserver l'intégrité du territoire. Et les Belges, qui ne font pas les choses à moitié, décrochent son portrait des murs et vont jusqu'à le brûler dans la rue.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu un peu tabou, ce roi Léopold III, en fait? Est-ce que c'est un problème, une épine dans le pied de la Belgique, en
quelque sorte? Oui, bien sûr, puisque non seulement donc la Belgique est envahie, Léopold doit regagner le palais sous haute escorte nazie, mais en plus, la population belge est vraiment, enfin, mort de faim, en quelque sorte. Et Léopold, lui, continue à couler des jours plus ou moins heureux, peut-on dire, sous les voûtes du palais. Heureux, oui, effectivement, puisqu'il se remarie en cachette, en catimini, dirons-nous, avec Liliane, celle qui va devenir la mythique princesse Liliane par après. Mais la population considère très mal le fait que l'on puisse remplacer la reine Astrid, qui est toujours présente dans les cœurs.
Décidément, que de difficultés, hein, et que de malentendus entre ce roi Léopold et le peuple belge.
Mais en quelque sorte, il cherche un petit peu les ennuis, parce qu'il se remarie sans l'aval du gouvernement. Or, il est un roi régnant, un souverain régnant. Ah, oui. Et il n'a absolument pas le droit de se remarier sans l'accord de ses ministres.
Alors évidemment, à la libération, ça pose un énorme problème. C'est en vérité son frère qui va assumer les fonctions royales. Il est régent Charles.
Le régent Charles, absolument. Le 3 septembre 1944, la Belgique, Bruxelles est libérée. C'est Charles que l'on rappelle aux commandes de l'État, puisque Léopold préfère ne pas regagner Bruxelles. Il sait qu'il y a des bruits atroces qui courent à son sujet. Il regagne la Suisse, Prégny plus exactement, la villa Le Reposoir qui est au bord du lac Léman, qui est là aussi un cadre absolument fastueux et somptueux, pendant que la Belgique tente de se reconstruire. Donc à nouveau, ce n'est pas fait pour...
Alors, on a parlé des 3 enfants qu'avait eu le couple mythique de Léopold et d'Astrid. En fait, il y a donc la grande-duchesse, enfin celle qui va devenir la grande-duchesse de Luxembourg, Joséphine Charlotte. Et puis donc Baudouin et Albert. Donc le roi, celui qui va devenir le roi Baudouin ne monte sur le trône qu'en 1950. Il a 20 ans à ce moment-là.
Il a 20 ans.
Puisqu'on a vu qu'il était né en 30, hein, c'est facile.
Voilà. Et on doit attendre une année, puisque la majorité à l'époque est à 21 ans. Donc la prestation de serment n'a lieu que le 17 juillet 1951.
Alors c'est un...
Baudouin, que l'on appellera le roi grognon, en quelque sorte. Ça fait Baudouin est triste comme un lendemain de fête, il est sec comme un violon, myope, introverti, un pauvre Baudouin.
Vous nous avez dit que les Belges n'avaient pas le... Comment vous disiez tout à l'heure qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche?
Oui,
vous
voilà,
faisiez pas les choses à moitié, c'est ça l'expression. On en a là une confirmation. Ce roi Baudouin, néanmoins, enfin moi j'en ai le souvenir quand j'étais enfant, c'est quelqu'un d'infiniment respectable.
Bien sûr, il va d'ailleurs, il va faire tout. L'obsession de Baudouin est de faire oublier l'épisode douloureux.
Mais bien sûr,
vous savez, il a perdu sa mère dans les circonstances atroces que l'on connaît. Voilà, on lui arrache son père, en quelque sorte, qui quitte le trône. Ça, on part ici, dans bonne et due forme, vous savez, tout compte fait.
Alors, je ne vous demanderai pas, parce que vous allez tout de suite invoquer une sorte de devoir de réserve, de nous parler du roi qui vient d'abdiquer, ni de celui qui vient de monter sur le trône. Mais enfin, quand même, un mot d'Albert Ier et de son fils Philippe.
D'Albert II, oui.
D'Albert II, pardon, oui.
Oui, alors Albert II donc succède à son frère. C'est la première fois depuis que la monarchie belge existe qu'un frère succède à un autre, en quelque sorte. Et concernant Albert II, ce n'était pas du tout la même figure que son frère, que le roi Baudouin. Il est monté sur le trône qu'il avait 59 ans, c'est-à-dire plus de maturité également. Il a horreur du protocole, Albert, et en contrario de son frère, il va être en quelque sorte un roi à la cool. On lui prédisait à son accession au trône un règne de transition, car on connaissait les affinités qu'avait le précédent roi Baudouin avec son neveu, le prince Philippe.
Oui.
Pas du tout, il va régner pendant 20 ans. Il va prendre des décisions qui sont importantes. Il va devenir au fil des ans le symbole de l'unité aussi dans la diversité. Car il faut quand même souligner ici que la Belgique est un royaume un peu particulier, qui est littéralement coupé en deux, entre les Wallons et les Flamands. Les Wallons
Vous devancez leur... mes questions.
Les Wallons qui ont leur propre langue, les Flamands qui ont leur propre langue, mais également cela va bien plus loin que cela. Ils ont chacun leur propre ministre, chacun leur propre langue, chacun leur propre drapeau.
En un mot, parce qu'il nous reste 40 secondes, est-ce qu'on peut dire que la monarchie belge est le ciment de cet État aujourd'hui ?
Bien sûr, ça reste la dernière unité, la dernière alliance qui relie le pays. Peut-être avec l'équipe de football, c'est peut-être le seul rempart que l'on a encore contre les séparatistes.
Merci beaucoup Bertrand de Kers de nous avoir parlé des Belges et de leur roi. Je rappelle votre dernier livre, son titre en tout cas, Les folies amoureuses qui ont fait l'histoire, c'était chez l'Express Éditions, dans la collection Point de vue, hein, c'était au printemps 2012. Vous êtes en train d'en préparer là un là en ce moment sur les Romanov, vous viendrez nous en parler. Et puis je voulais citer évidemment ce qui est un peu la référence dans le domaine de Patrick Weber aux éditions Perrin, La grande histoire de la Belgique. Il y a eu pas mal de réactions, je ne peux pas les citer maintenant, de toute façon ce ne sont que des points de détail de cette histoire que nous n'avons fait évidemment que survoler ensemble.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Le petit dictionnaire des inconnus célèbres de Claude Quettel aux éditions First Histoire est sorti au mois d'août et ça a été l'occasion pour vous, Franck Ferrand, de nous éclairer sur l'origine des noms propres devenus des noms communs.
J'avais commencé l'autre jour à vous parler de Lord Sandwich, vous savez, qui était à l'origine du sandwich, et puis j'ai été interrompu par le temps. Je vous avais promis qu'on en reparlerait de ce petit dictionnaire chez First Histoire, le petit dictionnaire de Quettel, de notre ami Claude Quettel. Alors, pourquoi parle-t-on de pêche Melba, par exemple, hein? Eh bien, en fait, cette pêche Melba, ce célèbre dessert, il remonte à la toute fin du 19e siècle, en 1892, et il est dû à quelqu'un auquel il faudra que nous consacrions une émission un de ces jours, parce qu'il est tout à fait extraordinaire. C'est Auguste Escoffier, très grand gastronome, très grand chef. Il était devenu chef du Carlton de Londres, et il inscrit pour la première fois cette fameuse pêche Melba en 1900. C'est donc, vous savez, une glace à la vanille sur laquelle on dispose des demi-pêches pochées au sirop. Eh bien, c'était un hommage, évidemment, à la plus grande cantatrice, la plus grande diva de l'époque, Nelly Melba, qui était, ce qu'on oublie parfois de préciser, qui était en vérité australienne, soprano coloratour incroyable à la longévité quasiment infinie, qui en même temps était doublée d'une femme d'affaires qui lui a permis de devenir extrêmement riche. Elle a été anoblie en Australie, cette dame Nelly Melba, et du reste, son visage a été immortalisé puisqu'il orne le billet de banque de 100 livres en Australie, hein. Le billet de banque qu'on appelle précisément le Melba. Je voulais vous dire un autre mot de Kir. Allez, juste un mot, parce que je vois que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais quand même, le chanoine Kir, voilà un personnage incroyable, hein, qui a été député de la Côte d'Or. Il était député de Dijon de 1945 à 1967. Assez indépendant, personnage assez extraordinaire. Il a laissé son nom au fameux apéritif qu'on appelait avant lui le blanc cassis. Le cassis, c'était Dijon, et Dijon, c'était Kir, en quelque sorte. Et bien voilà, deux nouveaux petits noms. J'ai pas eu le temps d'en dire beaucoup, mais enfin quand même, ça nous éclaire un petit peu plus. Bonjour Elena Morna, qui va bientôt donner son nom également un grand cocktail, hein, je crois.
Mais c'est déjà fait, Franck. Non. Alors Franck, écoutez, d'abord bonjour à tous. Fermez les yeux s'il vous plaît.
Oh là là,
Franck,
oui, allons-y.
Fermez les yeux. Repensez à ce que vous aimez, quelque chose d'agréable, une pêche Melba par exemple. Maintenant au bout de trois, je vais compter jusqu'à trois, Franck, et vous serez débarrassé de votre addiction à l'histoire. 1, 2, 3, nous allons parler d'hypnose. Vous avez des questions, c'est au 3921 ou sur europe1.fr.
Merci beaucoup Elena. Et moyennant quoi, demain nous ferons une émission de géographie, Céline.
À demain, Franck.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.